Seigneur Jésus, je viens te remercier aujourd'hui pour ce bon message qui m'a fait du bien alors que j'étais en train de le préparer. Et je te demande que tu étendes ta main sur chaque personne qui l'écoute afin que, par l'esprit de prophétie, ils puissent se rendre compte de l'importance qu'ils ont, de ce qu'ils doivent faire, afin que ton nom soit glorifié. Je te le demande dans le nom béni de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Bonjour. Quelques jours s'étaient écoulés et mes frères et sœurs, la foule avait entendu la parole que Jésus avait donnée. C'était une parabole. Vous savez, celle du mauvais riche et de Lazare. Et puis, ils se souvenaient très bien de ce que Jésus avait dit. Quand le mauvais riche est retrouvé du mauvais côté du séjour des morts, il a crié « Père Abraham, je te prie » Voyez-vous, ah, voilà un mort qui prie. Ah, il serait temps de prier, n'est-ce pas? Il est mort là. Il ne sera pas exaucé, remarquez. « Je te prie, envoie Lazare dans la maison de mon père, parce que j'ai 5 frères. Envoie Lazare pour qu'il atteste ces choses, afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et puis le mauvais riche, parce que tous les riches sont pas mauvais, hein, enfin celui-là était mauvais, le mauvais riche, dans le mauvais côté du séjour des morts, crie « Non, Père Abraham, si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, mais vont se repentir. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si un mort revient et ressuscite. » Et la foule avait entendu ça. La foule avait entendu ça et voilà que à Béthanie, Jésus, qui est plus grand qu'Abraham, rappelle un certain Lazare à la vie. Le premier Lazare, c'était celui d'une parabole, c'était un personnage fictif, un personnage d'une histoire que Jésus avait racontée. Alors beaucoup de gens nous disent « Oh, c'est une parabole, on ne peut pas faire une doctrine sur une parabole, disant que le séjour des morts est ceci et cela. » Enfin bon, si Jésus dit quelque chose, je pense quand même qu'on peut le prendre au sérieux, non? Bon, alors, en plus, Jésus, en racontant cette parabole, savait très bien que quelques jours après, il allait ressusciter un homme du nom de Lazare. Voilà pourquoi il a pris Lazare. Hein, il n'a pas dit Pierre, Jacques ou Jean, il a dit Lazare. Il savait très bien ce qu'il faisait. Ça a frappé beaucoup les imaginations, vous pouvez me croire, à cette époque. Et il a fait la preuve, là, de sa divinité, en ressuscitant un mort. Et puis, là aussi, il a fait la preuve que ce qu'il disait était vrai. C'est-à-dire que même si les gens voient un mort qui revient à la vie, eh ben, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Quelques jours, j'étais avec des hommes qui aiment Jésus, des hommes qui aiment Dieu, tout ça, et je leur parlais des miracles merveilleux que Jésus fait au travers de mon ministère. Et vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit « Oh, nous ne faisons pas de pub avec ces choses-là. » C'est parce que vous croyez que je fais de la pub. Et ils ne se réjouissent pas qu'un aveugle a retrouvé la vue ou que Dieu, dans son infinie grandeur, a donné la possibilité à un paralytique de marcher. Non, non. Il voit le mal, il pense que je me fais de la pub. Comme c'est bizarre. Vraiment, ce sont des esprits... C'est les ténèbres, ils sont enténébrés. C'est triste. Plutôt que de se réjouir de ce que Jésus fait, non. Alors là, eux, là, ils voient Lazare de Béthanie qui est ressuscité. Et plus méchant que jamais... Il court raconter ça aux religieux, tout en sachant très bien que les religieux sont absolument hostiles, n'est-ce pas, à Jésus. Vous voyez, mes frères et sœurs, le monde des ténèbres fait sa soupe. Ils sont entre eux. Les laissez. Ces gens enténébrés, cherchent à faire mourir Jésus dès ce jour-là. C'est ce que la Bible nous rapporte. Ils n'aiment pas la lumière. Ils n'aiment pas la lumière. Mais ce qui me frappe, et qu'on oublie souvent, c'est que ces enténébrés délibérèrent aussi de faire mourir Lazare. Vous trouvez ça dans Jean 12, 10, c'est un petit verset. On oublie souvent de dire qu'ils ont aussi décidé de faire mourir Lazare. par la puissance de Dieu. Un homme était revenu de la mort et ses enténébrés veulent l'y reconduire. Non, mais c'est incroyable. Aucune crainte de Dieu, aucun respect pour les choses sacrées, rien. Des enténébrés, je vous dis. Il y a sur terre deux semences, celle du serpent et celle de Dieu. Il y a l'ivraie et puis il y a le bon grain. Il y a les brebis et puis il y a les boucs. Alors Jésus s'écria, « Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez enfants de la lumière. » Puis après avoir dit ça, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'en alla, il se cacha loin d'eux. Il se cacha loin d'eux. Mes frères et sœurs, nous sommes enfants de la lumière. Faisons les œuvres de la lumière au milieu des ténèbres et puis allons-nous-en. Cachons-nous loin d'eux. Cachons-nous. Réfugions-nous dans la prière, dans l'intercession, dans le Seigneur notre Dieu qui est notre forteresse, dans notre lieu secret, dans l'arche qui ne passera pas par le feu. Vous savez, ils voulaient tuer Lazare parce qu'ils avaient peur du témoignage de Lazare. Oh, le témoignage de Lazare, c'était pas... vous savez, il faut croire à Jésus parce que Jésus revient bientôt, puis il va pardonner vos péchés si vous lui demandez pardon. Non, non, c'était pas ça. Tout le monde peut faire ça. Même des païens peuvent faire ça. Non, non, attendez. Lazare, là, c'était du vécu. C'était du vécu. Il parlait de ce qu'il avait vécu. D'ailleurs, Jésus dit... On ne parle que de ce que nous savons, de ce que nous avons vu, de ce que nous avons vécu. Autrement, un témoignage, c'est du blablabla. Lui, il savait de quoi il parlait, et ça, ça leur faisait terriblement peur. Voyez, ces religieux ne niaient pas la résurrection de Lazare, ils ne niaient pas non plus les nombreux miracles faits par Jésus, mais au lieu de chercher à savoir sérieusement en priant, si ces œuvres qu'il faisait là, si ces choses qui se produisaient n'étaient pas conformes aux Écritures qui disaient qu'un Messie allait venir et qu'il ferait des miracles, etc. Non, 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 non. Au lieu de se servir de leur intelligence, n'est-ce pas, des Écritures, eh bien, ils se servaient de leur intelligence à se demander quel effet, quelle influence ce Jésus et ce Lazare pourraient bien avoir pour éloigner la populace de leur sacro-sainte Église, de leur sacro-sainte théocratie établie par eux, dont ils étaient les chefs bénéficiaires à tous les points de vue. Et si tout cela n'allait pas contribuer à leur faire perdre leur sacro-sainte place, n'est-ce pas? Parce que c'était un bon job qu'ils avaient là. Alors observons un peu ce qui se passe. Les pharisiens, les sadducéens, ils sont en train de comploter pour faire mourir Jésus et Lazare. Ils sont remplis de méchanceté dans leurs ténèbres, et puis il y en a un parmi eux qui est le chef des chefs, n'est-ce pas, le caïphe, le souverain sacrificateur à bout filtre, à flavouille sous-glissante et bougon mordoré, qui s'écrie « Vous n'y comprenez rien !» Ah bon ? Ah bon ? Non, non, vous n'y comprenez rien ! Voyez pas que c'est avantageux pour vous qu'un seul homme meure pour que le peuple et la nation entière ne périssent pas ? Vous voyez cet homme enténébré ? Il voulait la mort de Jésus. En disant ça, il n'avait que des mauvaises intentions. Dans sa tête, dans son cœur, ça signifiait « Il faut tuer ce bonhomme. Il nous fait ombrage. » Mais, en réalité, à son insu, il était en train de prophétiser. C'est-à-dire que Dieu était en train de parler au travers de sa bouche. Jean le dit. Il dit ça. Jean, il dit, il ne dit pas ça de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de pouvoir réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jean 2, 51-52. Alors on parle souvent de l'ânesse qui a prophétisé, c'est très bien. Moi je trouve que c'est terrible, formidable, une ânesse qui prophétise. Mais un sale bonhomme comme ça, qui prophétise... Non mais c'est extraordinaire. On oublie que ce fils du diable, parce que Jésus l'avait traité de fils du diable, Jean 8, 44, prophétise. Frères et sœurs, les enfants de Dieu descendants d'Adam et de Seth sont dispersés sur la terre et sous la terre, dispersés parmi les fils du serpent, parmi les fils de Caïn, dispersés, mélangés à la race des Néphilim de Genèse 6. Mais Jésus connaît les siens. Il faut qu'il meure afin que la nation, pas seulement la nation, mais aussi tous les enfants de Dieu qui sont dispersés, puissent être rassemblés en un seul corps. Il est venu pour mourir à la place des siens. Pas tout le monde, des siens. Aucun des siens ne sera perdu. Attention! Soyez lumière et cachez-vous d'eux. Les fils du serpent sont des criminels, mes frères et sœurs. C'est pour ça que j'en veux tant à ces esprits religieux. Ils sont criminels. Même s'ils ont l'air des fois beaucoup plus sains que moi, ils sont criminels. Ils ne se réjouissent pas dans la lumière. Ils voient les miracles et ils vous traitent de Belzébuth. Bon, ils peuvent prophétiser, ils ne m'impressionnent pas. Même cette sale bête de souverain sacrificateur l'a fait. Ils ne se réjouissent même pas qu'un aveugle trouve la vue, qu'un paralytique marche, qu'un mort ressuscite, que des sourds entendent. Ils sont ténèbres par nature. Ils peuvent même pas comprendre ce que nous disons. Ce que Jésus dit, ils peuvent même pas comprendre. Ah, mais par contre, ils peuvent prophétiser comme Caïphe, tout en ayant de la haine dans leur cœur. Vous voyez comme c'est complexe, comme ça n'est pas simple, et combien il nous faut le discernement des esprits afin de ne pas être trompé. Sale bête, fils d'animal, fils de reptile. Mais quelle sera leur fin? Eh bien la même que celle qu'ont connue Caïphe et ses corrigionnaires, la calamité. Ça s'est abattu sur eux très peu de temps après. Leur hiérarchie a été renversée, leur temple détruit, Jérusalem démolie, leur nation démembré, terminé. Mais gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu. Jésus-Christ est un grand Dieu. Il est le Dieu de la résurrection. Et aujourd'hui, Israël revient à la vie. Et Jésus a dit, tout ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. Alors nous prions pour que l'Esprit de Dieu souffle sur Israël. Pour le moment, selon Ézéchiel, Israël est un corps qui se rassemble. Mais la vie de l'Éternel n'est pas encore venue pour vivifier ce corps. C'est pourquoi c'est la mort encore là-bas. Il faut que la vie de Dieu souffle. Ça ne va pas tarder. Mais nous avons un rôle à jouer là-dedans, mes frères et sœurs. Alors que beaucoup de chrétiens, même des chrétiens évangéliques, maudissent Israël maintenant. Je ne sais par quel mauvais esprit ils en sont arrivés là. Nous, fils de lumière, comme Jésus autrefois devant le tombeau de Lazare, nous devons prier et nous prions pour la résurrection d'Israël. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Israël, sors! C'est à nous de manifester cela maintenant. Au nom de Jésus-Christ, c'est à nous de le faire. Il y a l'œuvre des ténèbres, elle fait sa soupe. Et puis il y a nous, les enfants de la lumière. Alors faisons ce que nous avons à faire de la lumière, et puis allons vite nous cacher, parce que c'est dangereux quand même. Montrez de quel côté vous êtes, manifestez la vie miracle, puis allez vous cacher, parce que c'est dangereux quand même. Beaucoup trop de chrétiens ont des problèmes qui deviennent de plus en plus graves parce qu'ils ne sont pas sages, ils ne savent pas se cacher. Êtes-vous plus fort que Jésus? Lui, il se cacha loin d'eux. Jean 12, 36. Un autre jour, il se cacha. Jean 8, 59. Un autre jour, il s'échappa. Jean 10, 39. Vous voyez, mes frères et sœurs, il y a deux endroits pour vous cacher. Un endroit spirituel et un endroit matériel. L'endroit spirituel, vous pouvez vous cacher dans la communion avec Dieu, dans la prière, dans l'intercession, dans le lieu secret, comme dit notre frère Arthur Alamand. Et puis il y a l'endroit matériel, qui est l'Église de Jésus-Christ, la véritable Église de Jésus-Christ, protégée par les anges. Protégée, vous allez l'être par des anges, mais vous allez l'être aussi par des frères et sœurs qui vivent dans l'Église, dans la communauté. Une protection céleste, une protection terrestre. Mais comme le disait Esaïe, « qui a cru à notre prédication? Mais c'est pas nouveau, hein. Voyez, peu croient cela. Pourquoi? Oh, ça c'est très étrange. Parce que Dieu a aveuglé leurs yeux. Il a endurci leur cœur. C'est Dieu qui fait ça, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, de peur qu'ils ne comprennent du cœur, de peur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Jean 12, 38, 40. Vous voyez, Dieu fait des choses qui peuvent paraître étranges. Vous rappelez-vous de Moïse qui parle avec Dieu sur le mont, là, avec le buisson ardent, et Dieu arrive à le convaincre. Moïse est terrible, il ne se laisse pas convaincre comme ça, mais Dieu arrive à le convaincre d'aller voir Pharaon et de lui dire « Laisse partir mon peuple ». Et puis, un peu plus tard, alors que Moïse a finalement se laissé convaincre, Dieu cherche à le tuer. Mais pourquoi? Vous voyez, il y a des choses étranges. Si vous n'avez pas le discernement des esprits pour comprendre ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, eh bien vous allez peut-être en arriver même à prophétiser comme Caïphe sans savoir que vous prophétisez. Vous allez en arriver à faire des choses sans comprendre ce que vous faites. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y a des vierges folles, mes frères et sœurs. Il vous faut faire attention, avoir le discernement, l'intelligence des choses de l'esprit. Parce que là, c'est Dieu qui a aveuglé leurs yeux et endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Jean 12, 38, 40. Prie pour moi, mon beau-frère. C'est juste des paroles inspirées par la chair, très souvent. Ils ne veulent pas en vérité être guéris. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que si jamais ils sont guéris, si jamais Dieu les guérissait, ils se trouveraient devant un choix terrible. Celui de quitter les ténèbres pour marcher dans la lumière. Vous voyez, rien n'a changé, mes frères et sœurs. Mais vous, croyez dans la lumière, comme le dit Jésus, afin que vous soyez enfants de lumière. Amen. Jésus, je te bénis pour ce message et te prie pour que chacun de ceux qui viennent écouter cela sur Révélation Bible aillent dans leur lieu secret, se mettent à prier pour implorer l'Éternel notre Dieu, pour t'implorer de recevoir de toi l'esprit de discernement, pas un esprit de jugement, mais un esprit de discernement pour savoir, pour comprendre ce qui est en train de se passer et qu'ils se mettent dans la lumière, manifestant la lumière et ayant toute la sagesse nécessaire pour aller se cacher au moment où il le faut. Père, je te le demande dans le nom de ton Fils Jésus. Je sais que des heures terribles arrivent sur la terre. Je sais que les choses sont secouées, branlées. Je sais que les vibrations ne sont plus les mêmes. Je sais que les champs magnétiques sont bouleversés. Je sais que tout cela va avoir des influences terribles sur nous. Déjà, on voit dans les comportements des choses tellement bizarres. Le monde est déréglé. Prends soin de ceux qui viennent écouter ta parole. Prends soin d'eux, mon Dieu, qui ne se rassurent pas en disant « Mais j'ai prophétisé en ton nom, mais j'ai fait ceci en ton nom, mais j'ai fait cela. » Non, mais qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, et qu'ils marchent selon son exemple. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir, mes frères et sœurs. À bientôt.